Bonjour tout le monde, c'est un plaisir immense pour moi de pouvoir animer ce cours sur le livre de Daniel avec mon frère Célestin. Et nous sommes heureux d'être tous ensemble. Je vois une bonne participation. Les gens, Dieu les met à cœur d'apprendre un peu plus pour le connaître. C'est ça le but de la parole, tout simplement. Dieu se révèle à travers cette parole-là et nous avons cette responsabilité d'étudier la parole et l'esprit va nous révéler qui est Dieu. Et quand on connaît Dieu, on n'a pas le choix, on va l'aimer encore plus. C'est ça. Et je vais animer cette session, le cours avec notre frère, comme je dis. Et le cours va s'échelonner sur 12 semaines. Et Daniel a 12 chapitres. Fait que ça tombe bien. On n'a pas besoin de faire un plan trop détaillé. Chaque semaine, on va regarder un chapitre. Je pense qu'il y a des chapitres qui sont assez longs, mais on va pouvoir passer à travers les points les plus importants. On pourrait dire que ben, tout est important, mais on ne pourra pas rester longtemps sur certains points. Nous avons déjà lu, au moins ça quelque part, déjà lu ce livre, ou bien une partie de ce livre, ou bien entendre les histoires qui sont relatées dans ce livre. Nous allons pouvoir les lire ensemble, les commenter et découvrir le Dieu de Daniel, qui est le nôtre aussi, qui n'a pas changé. Daniel, c'est ce que nous allons regarder cette semaine. Premièrement, on va commencer par le contexte historique de ce livre. On va remonter vraiment dans le temps. On commence avec Abraham. Ça vous dit quelque chose, Abraham? C'est loin, Abraham. Mais c'est un homme que Dieu a saisi, lui a fait grâce d'avoir une grande nation, une grande famille. C'était la promesse de Dieu qui s'est accomplie dans sa vie, n'est-ce pas? Avoir une grande famille, une famille nombreuse, qui devient un peuple finalement, le peuple juif que nous connaissons actuellement, n'est-ce pas? Et ce peuple-là, à un moment donné, il se rendit en Égypte, comme vous le savez, et il resta en Égypte pendant 4 siècles, comme c'était prédit par Dieu, par l'Éternel dans Genèse. Ce peuple-là devint esclave, à un moment donné, à cause de la peur des Égyptiens, et finalement il est libéré par Moïse, un chef que Dieu a suscité pour sauver, sortir son peuple de l'esclavage. Ce peuple-là, quand Moïse les a sortis de l'Égypte, ils ont erré 40 ans dans le désert. Et Dieu a choisi que c'est pendant ce temps-là qui va se révéler, qui va leur donner ses instructions, les lois qu'on connaît, les lois que Dieu a données à Moïse et à son peuple. Et il lui a donné aussi le tabernacle. On dit, mais qu'est-ce que ça fait? Ah, un tabernacle, on est dans le désert, à quoi ça sert? Mais Dieu voulait déjà nous donner un message du rassemblement de son peuple, de son église, de son temple, que nous devenons aussi aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Des sacrifices. Merci Seigneur que nous n'avons plus à faire des sacrifices. Mais on sait dans l'Ancien Testament, à côté, c'était laborieux, c'est rituel. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand on offre des sacrifices pour les péchés. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, le sacrifice a été fait. Jésus-Christ s'est donné lui-même le sacrifice parfait. On n'a plus besoin de faire ces sacrifices-là. En plus, il a parlé de sacerdoce. On voit une tribu qui est dédiée vraiment comme les sacrificateurs, les tribus de Lévi, que Dieu leur donne comme mission pour le sacerdoce. Tout ça, c'est dans le désert, là. Hein? Josué, après, les conduit. Après la mort de Moïse, c'est Josué qui prend la relève. Il les conduit dans cette terre qui a été promise aux enfants d'Israël depuis Abraham, n'est-ce pas? Et rendu en Canaan, vous connaissez l'histoire, mais le territoire a été partagé entre 11 tribus. Pourquoi 11 tribus? Parce qu'il y a une tribu qui n'avait pas de partage. Les Lévites, ils devraient se promener et puis s'occuper de la santé spirituelle du peuple, n'est-ce pas? Cette période-là, après Josué, c'est suivi par la période des juges, et qui sont des conducteurs, vous savez, c'est des conducteurs que Dieu a suscités parmi son peuple pour délivrer Israël des nations environnantes qui l'attaquaient, qui l'opprimaient. On sait que c'était comme un cycle de 40 ans quand on lit dans les juges. Là. Ça va bien, le Seigneur les délivre et puis il retombe dans le péché. Là. Puis, c'est le cycle du livre du juge. Puis ça a suivi après la mort de Josué. Après les juges, c'est la période des rois. On a étudié dernièrement avec le roi David pendant longtemps sur 1 Samuel, 2 Samuel. C'est la période des rois. Et ces rois-là commencent à régner sur un royaume uni. Le royaume, Dieu a permis que David ait un royaume totalement uni. Mais malheureusement, ce royaume-là va être divisé par la suite. On voit un royaume du nord, un royaume du sud. On voit un royaume du nord qui est, dont la capitale est Samarie, Israël, oui. Et ce royaume-là a été détruit complètement, complètement par quelques années plus tôt, ben, dans l'histoire, par les Assyriens, et dans les environs de 722 avant Jésus-Christ. Et un siècle plus tard, ce sera le tout de Juda. Juda, Israël du Sud, avec capitale Jérusalem, qui va être amené en exil par Nebuchadnezzar, un siècle plus tard à Babylone. Ça, c'est l'historique. Dans ce pays-là, Babylone, c'est là qu'on retrouve Daniel et ses trois compagnons dont nous allons étudier le livre ce matin. Ça va? Comme ça? C'est dans ce pays-là que Dieu va prouver, encore une fois, il a prouvé ta fidélité à travers tous les âges, à travers toutes les histoires, tous les récits qu'on voit dans la Bible. Mais spécialement, dans ce livre-là, il montre sa fidélité à ses promesses. Dans le cas de ses deux compagnons, de Daniel et de ses compagnons, et l'exil va durer 70 longues années. Mais Dieu n'aura pas oublié, vous connaissez l'histoire là. À la fin de ces 70 ans, Cyrus, boum, de nulle part, il donne un édit pour que les enfants d'Israël puissent rentrer à la maison et bâtir le temple, la muraille, tout ça, vous connaissez l'histoire. Ça nous amène jusqu'à Daniel. Et si on regarde, maintenant, on a parlé de déportation. L'Israël du Nord qui a été abattu, qui a été rasé par les Assyriens. Mais quand on parle de l'exil de Judas, ça n'a pas été fait d'un coup, d'une shot. Ça s'est échelonné pendant plusieurs siècles même, je dirais. Alors c'est un petit tableau représentatif de la déportation de Judas. Quand on dit qu'on les sont exilés, ils sont partis en exil, c'est pas d'un coup, c'est progressivement à travers les années que ça s'est arrivé. Il y a eu la première déportation, les dates sont approximatives, ok? Aux environs des années 605 avant Jésus-Christ, avec le roi Joachim. Ce roi-là, si vous regardez dans Deux Rois 24, vous allez voir que ce roi-là a été mis sur place par Néco, le chef, le président, bien le roi d'Égypte, qui l'a mis en place. Il n'y a pas de pouvoir, ce gars-là. Il est mis là par Jérusalem, par l'Égypte. Il est là. Puis quand Nebuchadnezzar va venir, il va juste envahir, mais il va le laisser sur place. Il ne va pas le destituer. Il va le garder là. Mais il va emporter avec lui, par la première déportation, il va emporter les nobles, les jeunes gens, dont Daniel. Pendant cette période-là, Daniel va être amené en Babylone. Les références bibliques sont là pour les déportations. La deuxième déportation, c'est à peu près 10-11 ans plus tard. Dans ce cas-là, c'est avec Joachim ou Jeconia. Certains livres parlent de Jeconia, qui est son fils. Et maintenant, le roi, Joachim, sa famille, les artisans, les soldats, dans ce temps, même le prophète Ézéchiel, et fait partie de cette déportation-là. On peut lire ces références bibliques-là dans ces livres-là. Enfin, la troisième déportation, pour finir toute l'histoire de la déportation, c'est dans les années 586, avant Jésus-Christ, avec le roi Sédécias. Et quand vous lisez, il était mauvais, mais Nebuchadnezzar ne l'a pas manqué, là. Il a vraiment maltraité, coupé ses ongles. Vous allez dire, c'est affreux ce qu'il lui a fait passer, là. Mais vous savez, ça c'était le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu pour qui? Pour son peuple. Aimer son peuple choisi. Parce qu'ils n'ont pas obéi pendant des années. Dieu a envoyé des prophètes. Il leur a parlé lui-même. Non. Ils ont persisté dans leurs mauvaises actions contre Dieu. Et finalement, Dieu n'a pas le choix que de les punir, parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est justice, il est amour, oui, mais il est justice. Il faut ces deux volets-là quand on parle de Dieu. Un Dieu juste qui aime, mais un Dieu qui est juste, qui va punir l'iniquité du méchant jusqu'à la énième génération, mais qui va bénir aussi jusqu'à la énième génération. Alors là, dans ce temps-là, le temple va être détruit complètement. Tandis que la première déportation, il va juste apporter certains ustensiles. Ils vont prendre quelques articles précieux dans le temple on va le voir dans le chapitre 1er, le temple va rester intact, mais il va être saccagé. Okay? Mais dans le 3e, là, c'est là qu'ils vont tout raser, même le temple va être détruit par Nebuchadnezzar.
C'est la première déportation, on peut même le remplacer par des otages, parce qu'ils ont envoyé 75 jeunes, nobles. C'est le levier qu'il y avait sur le roi Joachim. Tu fais de quoi stupide, là? T'es 75, je les ai dans ma cour. C'est rien de nouveau, qu'est-ce qu'on voit de nos jours. Là.
Merci pour ce commentaire. Sentez-vous à l'aise, intervenir quand vous voulez, OK? Lisons le texte qui nous intéresse ce matin, Daniel chapitre 1er, tout le chapitre. Quelqu'un qui a une voix portante pourrait le faire, s'il te plaît.
La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportèrent les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dont toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au thème fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen.
J'ai essayé de diviser ce texte-là en 5 parties. Nous allons les regarder l'une après l'autre. On pourrait regarder premièrement l'expédition dans le chapitre de verset 1 et 2, l'expédition de Nebuchadnezzar. On en a déjà parlé dans l'historique. On va voir Daniel et ses 3 compagnons, la fermeté de ses 3 garçons, et je dis garçons, jeunes hommes, ce n'était pas des vieux, le test de la fidélité de Dieu et le résultat de ce test-là. Puis dans, pour finir, les versets 17 à 21, on va regarder l'approbation même de Dieu pour l'approbation divine de ce qu'il avait décidé de faire, de leur fermeté, de leur décision, leur foi, on va dire. Je veux juste rappeler que ce que nous voulons, nous venons de lire dans chapitre 1, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une fable, c'est historiquement vrai. C'est vrai, c'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est vrai. C'est un récit historique. On peut lire beaucoup de choses sur Internet, mais si tu lis cette histoire-là, c'est la vraie histoire d'un peuple que Dieu a. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est son histoire. Comme nous l'avons vu dans l'historique, en 605, dans le coin de l'année 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, il ne destitue pas le roi, comme on disait, mais il amène qui il veut, ce qu'il veut. Il est roi, il a gagné, il est vainqueur, il amène ce qu'il veut, ce qu'il lui plaît. Il l'amène ça à Babylone. Il apporta, d'après le verset qu'on a lu, une partie des ustensiles de la maison de Dieu et les met dans sa maison, dans la maison du trésor de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour Daniel, d'après vous, ou bien pour le peuple juif? Qu'est-ce que ce geste-là, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Le fait que le roi ait pris les ustensiles de la maison de l'Éternel et les met dans la maison du trésor de son Dieu, c'est des objets sacrés, c'est des objets sacrés. Les sacrifices, c'est important ça dans la maison de Dieu, ces ustensiles-là. C'est important pour les sacrifices des péchés du peuple. Là, le roi, il le sait pour moi. Pourquoi c'est la première chose qu'il prend? Il les amène dans la maison de son Dieu. Oui, mon frère.
De son Dieu, ça montrait aussi la domination des dieux, hein, parce qu'il y a des comparaisons en Dieu, et puis quand il le fait, il démontre ici que le Dieu que moi je prie est plus fort que votre Dieu. Donc Dieu lui-même amène.
Parce que dans sa tête, il se passe que c'est ses forces. Ce sont ses forces dans sa tête. S'il a pu conquérir, avoir la victoire, mais c'est parce qu'il a le bras fort. Alors ce monsieur-là, un humain, est venu, il amène tous ces objets-là. Ton Dieu ne réagit pas. Ça pourrait être démoralisant pour le peuple. Mais l'inspiration de ce livre-là nous dit que dans le verset 2, on va le voir, qu'est-ce qui lui a donné la victoire là? Verset 2, le Seigneur livra. Par regarder vite, vite, ça, on peut bâtir sur ce texte-là. Pour le moment, nous avons dit le temple est saccagé, mais il ne détruit pas. Il prend les objets de valeur pour lui. Et le verset 2 nous dit beaucoup cette histoire. Le Seigneur livra ses mains, dans ses mains, Joachim, le roi de. C'est le Seigneur, c'est l'action du Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui est en mouvement, malgré les faits historiques qu'on voit là. Dieu est présent dans toutes ces histoires-là. Et comme dans tous les événements de l'histoire, celui-ci, cet événement-là, accomplit la volonté même de Dieu. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Dieu se révèle dans ces textes-là comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais comme nous l'avons dit, ça c'est le résultat du péché de l'endurcissement de son peuple. Imaginez, Israël du Nord, le royaume du Nord, là, il y avait combien de tribus là-dedans? 10. Et les textes de l'Ancien Testament nous disent, ils ont tout rasé. Il a disparu. Ces 10 tribus-là sont disparues, sont amenées, les Samaritains, ils ont poigné une couple de d'autres villes, citoyens d'autres pays, ils les ont mis là. Vous connaissez l'histoire, les Samaritains, là. Comment c'est ça? Dieu a rasé quasiment ces 12 tribus-là à cause que ces gens-là étaient désobéissants et persistaient dans leur endurcissement contre Dieu. Et Dieu permet, et Dieu ne s'est pas repenti, malgré qu'il les aime encore, mais ils sont amenés en exil pour 70 ans. Dieu est en contrôle de ces événements-là. Il va utiliser qui il veut. Il a utilisé dans ce cas-là Nebuchadnezzar pour accomplir sa volonté. Et dans le texte du Nouveau Testament, il va dire Nebuchadnezzar, mon serviteur Nebuchadnezzar. La Bible, c'est actuel. C'est pas une histoire du passé. C'est une histoire pour l'homme. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et les temps à venir, nous n'avons pas changé. Nous n'avons pas changé. Nous sommes pareils, sinon pire. Et ce message-là, c'est pour nous amener à cette réflexion-là. Quel Dieu nous servons? Et c'est un Dieu saint. Comme il l'a dit, vous serez saints. Cette sainteté-là, il veut travailler, la travailler en nous à travers tous ces détails qu'on voit là. C'est peut-être pas dit dans le texte, mais l'histoire raconte. Mais quand on regarde dans la Bible, le peuple Israël était, avant l'exil, ils étaient une nation idolâtre. Ils avaient plein de dieux partout, vous le savez dans l'histoire. Mais, après l'exil, ils ont commis d'autres péchés, mais pas l'idolâtrie. Ils ont commis tous les péchés, avec Néhémie qui les a amenés, Esdras, etc. Mais on leur a jamais reproché l'idolâtrie. Fait que l'exil a eu un effet positif. Il y a eu un effet positif. Ils ont remarqué, ils ont découvert ce Dieu-là qui étant le seul Dieu. Et Dieu, c'est l'une des choses qu'il ne tolère pas face à son peuple. Qu'il soit comparé à un autre ou bien qu'il y ait un autre qui est adoré autre que lui. C'est ça. Maintenant, Daniel et ses trois compagnons. Dans les versets 3 et 7, on nous présente l'ordre de M. Ashpenaz, chef des eunuques. Il y avait le mandat d'aller choisir les enfants, les jeunes hommes qui étaient déportés. Mais avant ça, c'est comme on voit Nebuchadnezzar comme un gars, on va dire smart. Hein. Il déporte les gens, mais il les maltraite. En fait, je ne sais pas si en arrière-plan, il y a un groupe qui le maltraite, mais on présente ces hommes-là, là, il ne les maltraite pas. Parce que quand on est maltraité comme on est subjugué, il y a un risque de révolte, n'est-ce pas? On sait qu'il y a un risque de révolte. Et ce qu'il va faire, lui, il va demander de choisir des jeunes hommes sans défaut, beaux corporels, sans défaut corporel, beaux de visage, doués de sagesse et d'intelligence. On le voit là, avant, dans le roi, avant, il fait ses choix-là, avant de choisir qui il va amener avec lui, là, le texte biblique nous dit, ce sont des gens qui ont de la valeur pour lui. C'est des gens qui ont de la valeur pour lui dans son empire qu'il va amener chez lui. Il va pas prendre tout le monde, là. Il va en laisser à Judas. Il va en laisser à Jérusalem. Et rendu en Babylone, il va demander qu'on choisisse ces jeunes hommes-là, qui sont pleins de sagesse, qui sont intelligents, qui sont instruits. Et ces gens-là vont servir dans sa cour. Ils vont servir dans sa cour. Mais avant de pouvoir servir, il faut les former. Il faut les former. Leur cégep, c'est de 3 ans. Ils ont dû passer 3 ans à apprendre. Oui, mon frère.
Concernant les jeunes hommes qui étaient beaux de figure, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Mais pour les hommes, c'est une séduction que Dieu a utilisé cette situation-là pour son œuvre.
Oui, oui. De toute façon, ça vient de Dieu, la beauté, tout ce qu'il y a, là, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui, mon frère.
D'accord que Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'extérieur, mais si tu cherches une job, là, c'est
chose
à la
bouche.
C'est vrai.
De base. Mais les hommes, c'est pas ça qui voit le cœur.
Ça, c'est sûr.
Des fois, il faut dire aux jeunes, là, ta grosse barbe, ça fonctionne pas dans les cheveux.
Les hommes regardent ça. Oui, 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 mon frère.
Je disais, quand on regarde ici la démarche de Nebuchadnezzar, au fait, il est en train de vider pratiquement les enfants d'Israël de leur de leur intelligence, de leur capacité. Donc, il les prévoit pour son service. Mm-hmm. Voilà. Donc, on voit ici. Et puis aujourd'hui, quand on assiège des endroits, on va chercher les personnes stratégiques pour les départ.
Il n'a pas fait différemment. Il va aller plus loin, là. Il va les instruire dans sa culture, dans sa langue, dans sa littérature. Il va maintenant dans son sémet, mais il va l'intégrer au bout de quoi. Hein?
Il va les dompter.
Pendant 3 ans, c'est ce qu'il fait. Il les rééduque dans sa langue. Oui, oui, j'espère les dompter. C'est ça. C'est son intention. C'est son intention. Mais Dieu est à l'œuvre, on le sait. Dieu est à l'œuvre. Oui, mon frère.
En plus d'être, tu sais, bon, tout ça, là, c'est marqué capable de servir dans la présence du roi. Et je pense à ça aussi, il y a des grâces sociales, tu sais, qu'il faut savoir comment se comporter dans la vie. C'est important aussi de savoir comment se comporter avec les autres, avec les frères et sœurs, avec les politiciens et tout ça. Là.
Et ce choix-là, je pense pas qu'il le fait au hasard, là. Et quand ils ont étudié ces gars-là, là, ils ont passé ça à la loupe, là, et puis, avant le, toi, tu qualifies, etc. C'est ce que je pense qu'un bon intendant ferait avant d'aller choisir ces gens-là. Et on dit qu'il les rééduque, hein, dans sa langue, dans sa littérature, la littérature babylonienne, oublie ce que tu connaissais d'Israël. Maintenant, ils vont manger la même nourriture et boire le même vin que le roi. Waouh! Tout un privilège, n'est-ce pas? On dirait, pour nous, tout un privilège d'être assis à la table du roi, d'être formé, de manger ces mêmes plats. Ils leur enlèvent même leur identité. Je pense qu'il y a, c'est une stratégie aussi, comme tu dis, là. Mais ils leur changent leur nom. Toi, tu ne t'appelles plus Daniel, tu t'appelles Baltazar. Et puis, chacun à son tour.
Est-ce que c'est une série de nations, un jeune homme juif, pour les Babyloniens, tous ces éléments-là, les 3 ans de formation, je pense que si tu dates leur âge avec leur formation, ils étaient moins de 17 ans. C'était des jeunes hommes, des ados pour nous, des jeunes hommes pour eux. Puis ce qui est dans la langue littérature, Daniel, il était correct avec ça. Il est allé à l'éducation libérale de McGill.
Et il faut dire aussi, n'oubliez pas, c'était des jeunes. Hein. Je dis de parler des jeunes hommes, c'est pas des adultes. Puis on pense que en regardant l'histoire, il y a eu un réveil en Juda avec le roi Josias. Puis c'est dans ce coin-là que Daniel est né. Il n'a peut-être pas né petit, mais il a grandi dans cette nouvelle, dans ce réveil-là au niveau spirituel. Puis en lisant ce texte, on se demande où est-ce qu'il a pu puiser ces valeurs-là, cette confiance en Dieu, cette connaissance de Dieu. Mais c'est important de le savoir parce que Dieu a permis ces. En fait, l'idée de Dieu, c'est que ceux-là qui dirigent le peuple, ils devraient diriger avec une copie de la parole, n'est-ce pas? Une copie de l'Écriture afin qu'ils soient instruits dans la parole de Dieu.
Je ne peux pas m'empêcher, parce qu'on connaît un peu la suite, on sait que Dieu s'est révélé puissamment à travers tout ça. On a voulu taire Dieu, puis Dieu s'est révélé puissamment. Puis aujourd'hui, ça n'a pas changé parce que là, dernièrement, en fin de semaine, cette semaine, il y a un homme qui s'est fait tuer, ouais, qui parlait de Jésus. On s'entend qu'on ne dit pas des nouvelles, mais cet homme-là, il propageait l'Évangile à travers tous les jeunes. Et on a essayé de le faire taire en le tuant. Puis je pense que moi, j'aurais jamais connu ce gars-là si on ne l'avait pas tué. Je connais l'Évangile, mais l'Évangile n'a jamais été aussi partagé par cet homme-là. Parce que là, tout le monde essaie de savoir c'était qui ce gars-là. Puis l'effet a été complètement contraire. Puis ça n'a pas changé. Dieu travaille d'une façon tellement puissant, tu sais, que tu veux essayer de briser son plan, oublie ça, ça fait l'effet contraire.
Merci.
Mais juste concernant le changement d'identité, là, les noms de Daniel puis ses collègues, là, comme Daniel, c'est comme Dieu est juge, l'autre d'après, c'est quoi Dieu, il n'y a personne comme Dieu, le nom voulait dire ça, l'autre, le nom voulait dire en hébreu, Dieu est gracieux, puis Dieu est mon aide, tu sais. Là, il a donné des identités qui étaient en rapport avec...
C'est une humiliation, hein? On est d'accord, c'est une humiliation. Et une insulte pour ces jeunes-là, comme on disait, qui connaissent Dieu et qui sont obligés, on va dire, d'accepter le nom, le nouveau nom qu'ils leur ont donné. Oui.
Oui. Mais je voulais, des fois, ils vont le faire, mais pas à cause de la signification du nom, mais plutôt à cause des actes.
Oui, témoignage. Oui, parce que si on pense à Shadrach, à Abednego, c'est ça.
Parce que,
surtout chez nous, ils ne connaissent pas, c'est l'historique. La signification des noms, ils ne connaissent pas. C'est le témoignage qui est rapporté. On va passer à la prochaine slide. On dirait quel privilège dirait-on? C'est un privilège. Vous allez voir que Daniel ne veut pas en profiter. Dans le verset 8 à 10, on voit la fermeté de ces gars-là, de ces petits jeunes garçons, on pourrait dire, comme Marc l'a mentionné. Daniel refuse catégoriquement de se souiller. Ce terme est fort.
Question, pourquoi pas un garçon, ils étaient 4?
C'est Daniel et ses compagnons. Mais je pense que la Bible, il y a un accent quand même sur Daniel.
Oui.
Il y a un accent quand même. Dieu a sûrement une raison pour ça. Les 4. C'est les 4. Merci pour la correction. Je se rappelle que c'est les 4. C'est Daniel et ses compagnons. Alors, Daniel et ses amis refusent catégoriquement de se souiller avec les mets du roi et de son vin. Question. Pourquoi pensez-vous que manger, d'après Daniel, que manger les mets du roi et boire son vin, c'est se souiller? Ça, c'est pas un terme qui est pris légèrement, là. Pour lui, c'est souiller. Le texte dit souiller. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que les mets qui sont donnés à ces rois-là, païens, n'oublie pas, c'est devant païens, c'est des mets qui sont déjà consacrés à leurs idoles, leurs dieux. Puis il parlait aussi des choses que les enfants d'Israël ne devraient pas manger. les bêtes qui sont tuées, les sangs qui ne sont pas enlevés, etc. Là, alors, peut-être c'est tout ça qui fait que Daniel, je crois que c'est correct, mais il est jeune, mais il connaît tout ça. C'est voir comment ce gars qui est élevé là-dedans et qui sûrement pas juste été élevé, mais qui a creusé dans cette parole-là, qui a creusé et qui a pu développer cette foi que nous allons voir, là, cette foi de mettre Dieu au défi, de mettre Dieu au défi. Pour lui, c'est vraiment pas question, je mange pas de cela, même si ça me fait passer comme quelqu'un de valeur. J'imagine qu'il y a eu de la pression de sa famille, qu'est-ce que vous pensez? Refuser d'aller manger au maître du roi, là. Ses proches, peut-être, qui disent, mais Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu as une opportunité en or de, je sais pas, là, d'être assis à la table du roi, de nous représenter, on est des immigrants, etc., là. Mais Daniel, c'est pas ça, sa vision. C'était vraiment de plaire à son Dieu et de refuser tout ce qui n'était pas. Et ça nous parle ce matin, ça nous parle comme parents, comment élever nos enfants. C'est la promesse. Élevez-les dans la parole. La parole va faire son œuvre. Vous pouvez pas faire l'œuvre. C'est la parole qui va faire son œuvre dans le cœur.
Dans un monde séculier, qu'on dit d'âge, je me demande qu'est-ce qui est tolérable comme chrétien, qu'est-ce qui n'est pas. L'approche de Daniel, de tolérer aller une éducation libérale. J'ai une éducation très libérale. Il a accepté de changer son nom. J'aurais beaucoup de misère avec ça, mais il a accepté pareil. Donc, ce qu'il a refusé de se souiller, c'est quand c'était contre qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et là, la ligne. Je pense qu'il est là, la ligne, c'est on est dans un monde séculier, puis on se demandait des choses que peut-être on n'est pas...
Tout à fait d'accord.
C'est correct pour un croyant d'aller chercher une éducation libérale. Je pense que c'est pas bon pour tous les croyants, mais c'est bon pour certains. Est-ce que c'est bon de changer ton nom? J'ai de la misère avec celle-là, mais il a accepté. Mais quand il a été demandé de faire quelque chose qui est contre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est là qu'il a mis la ligne. Avec l'alimentation. Je veux faire de la viande sacrifiée aux idoles, de la viande ou de la nourriture qui est pas cachable, selon la loi mosaïque.
Mm-hmm. Aujourd'hui, dans les universités et les cégeps, là, on parle du fait que c'est libéral. Il y a un grand danger pour nos jeunes qui vont dans ces écoles-là. Mm-hmm. On parle que lui a agi avec conviction selon ce que Dieu voulait. Mais nos jeunes qui vont là, on cherche à les faire changer d'idée. Mm-hmm. C'est hostile, très, très, très hostile. Et puis, quand, si on a des jeunes qui sont à l'université, ici à l'église, là, ils sont sujets à une influence très, très, très forte,
ouais.
Très sécurisée.
Ouais. Ouais.
Et est-ce qu'ils ont la conviction? Ben, c'est seulement Dieu puis la parole qui peut.
La parole.
On a besoin de gens comme eux qui ont vraiment de la conviction.
Ouais.
Que Dieu nous donne de plus en plus des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont cette conviction-là.
Oui, on ne pourra pas les empêcher, pareil, parce que malgré le fait qu'on va les empêcher, ils vont se retrouver dans le monde, puis le monde est rempli de ça. Fait que notre job, c'est pas de les protéger de ça. Le Seigneur va s'en occuper. Nous, on doit les former pour faire face à ça.
Oui.
Puis ça, c'est toute une différence, parce que si on cherche à les protéger, le moment où ils seront plus protégés, ils vont être vulnérables.
Mais ce que mon frère dit, là, c'est vivre l'Évangile, c'est vivre d'une façon
comme
Dieu te demande. Oui, oui, la parole est là, mais tu vis en tant que parent, en tant qu'environnement. Il est influencé par cet environnement-là, parce que c'est comme ça. Nos vies, c'est, on est fidèles.
La porte de la maison, là, ça y est, là, t'es dedans.
C'est pour ça qu'il faut, surtout dans cette société-là, il faut qu'ils sachent notre ligne qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser. Oui.
Comme là, le recteur de l'école de McGill parlait au professeur anglophone il y a deux semaines. Puis son discours, commission scolaire, puis son discours c'était « Embrace the darkness », il faut adorer les esprits occultes, Dieu a positif, « Antichrist ». Ça n'a jamais été aussi pire que ça l'est en ce moment dans nos écoles. Au cégep, ils sont tellement rendus woke, c'est tellement rendu de l'intersectionnalité, il n'y a plus de bien plus de mal. Puis honnêtement, je pense que Charlie Kirk s'est fait assassiner parce qu'il croyait dans le bien et le mal. Ça n'existe plus. C'est DI, intersectionality, partout. Tout est vu sous le prisme de l'oppressé, de l'opprimeur, plutôt que de bien et de mal. Mm-hmm. Ça n'a jamais été aussi corrompu. Parce qu'avant, on avait quand même une certaine
moralité
commune, mm-hmm. que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante, notre héritage, elle n'existe plus dans nos écoles. Là. C'est vraiment rendu beau, c'est rendu tellement libéral.
Mm-hmm.
Il y a un danger supplémentaire que je ne pense pas qu'il y avait quand même. Moi, j'étais là il y a 20 ans.
Ça fait penser, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est juste que maintenant, c'est le pouvoir. On le voit, puis il y a
Parce que moi, je me rappelle que c'est jeune, j'avais pris un cours de l'anthropologie de religion. Fait que je savais que j'allais être exposée à différentes religions, mais là, à un moment donné, une fois, là, il y avait des affaires très occultes. Mm-hmm. Puis moi, j'ai carrément refusé. J'ai dit, je n'ai pas ces cours-là. J'en ai pas de besoin.
On a des décisions à prendre.
J'ai pas besoin d'entendre. Sorcières, mm-hmm. Toutes les affaires qu'ils ont, là, j'en ai pas besoin. Puis je me rappelle, il y avait même un jeune qui avait planté la tête qui m'a dit, si t'es chrétienne, c'est pas pour toi.
Dans notre église, au mois de février, on était comme obligé d'avoir des rencontres, des séminaires, etc. Des activités en fin de semaine pendant la saison des carnavals. Parce que le carnaval chez nous, là, OK? On veut comprendre tout ce qu'il peut. Puis nous, les chrétiens, on est à côté et puis on veut aller. Les jeunes veulent aller. Comme c'est pas loin de chez nous, là. C'est à côté. Et la tentation est là. Fait que, c'est pas nouveau. J'ai même été au cégep. J'étais au lycée. Je pense que le professeur a dit, ben, est-ce cette affaire que Dieu va éliminer le monde, la fin du monde? C'est pas vrai. Il m'a dit ça. J'avais comme 12-13 ans, là, au lycée. Le professeur disait ça. C'est rien de nouveau.
Oui. Aujourd'hui, le mal arrive à répondre, tu sais. Il y a une différence entre maintenant, il y a 20 ans passé, c'est rendu violent. Mm-hmm. C'est rendu hostile, c'est rendu vraiment malsain, là, à un point...
Daniel, avec sagesse, je répète, Daniel, avec sagesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le responsable et lui a expliqué son cas. Sa résolution... Sa conviction ne l'empêche pas d'être aimable et respectueux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Son approche par rapport à la situation. Il demande la permission de ne pas manger la nourriture du roi. Et déjà, on voit la réponse du responsable comme étant favorable à lui. Parce qu'il dit, hey, si je fais ça, là, c'est ce qui va arriver. Ce sera la fin pour moi. Il aurait pu réagir d'une autre façon, mais il explique, dit, non, hey, si je réponds à ta demande, là, voilà ce qui peut m'arriver, là. Il n'a pas dit catégoriquement non. Fait qu'on voit déjà une petite, il est favorable à la demande de Daniel. C'est exactement ça. Les autres, si tu te vas en pleine forme comme les autres, là, au bout de cette période-là, c'est la fin pour moi. C'est la fin de ma vie. Maintenant qu'on a vu ces hommes-là, maintenant leur fidélité, leur fermeté, on le voit dans les versets 11 à 16, qu'est-ce qu'il dit, Daniel résolu. Non, alors Daniel dit à l'intendant et à qui le chef des eunuques avait mis surveillance sur lui, de Daniel, de Anania, de Miskaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger, et de l'eau à boire. Et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. C'est une parole de sagesse, là, non? Et on le voit. Et Daniel demande des légumes à manger, de l'eau à boire. Il demande qu'on puisse comparer sa forme physique à celle des autres jeunes gens. Et puis, moi, je vois là-dedans un acte de foi de la part de Daniel. Et c'est là que je me pose la question, où est-ce qu'il a trouvé cette foi-là à son âge? C'est ça qui me fascine. C'est ce qui me fascine à son âge, qu'il a pu avoir cette confiance-là en Dieu, que je ne sais pas ce qu'il pensait Dieu allait faire, mais il savait que il serait aux mêmes formes, sinon la meilleure, que les autres gars de son âge. Par la foi, il le savait. Je ne sais pas comment il le savait, mais par la foi, il le savait. Il a lancé ce défi-là. Et Dieu l'a entendu, ça. Dieu a entendu ce qu'il a dit. D'où vient cette foi? On a peut-être discuté déjà, on a déjà répondu à cette question. Tout l'environnement qu'il a eu dans le passé, le réveil qu'il a eu sur le temps de Josias, etc. Sûrement ses parents qui l'ont exposé à l'Évangile, qui ont grandi avec les Saintes Écritures, avec La parole de Dieu, les ordonnances de l'Éternel, les instructions de l'Éternel, comment il faut vivre. Mais ça a suscité en lui une foi, n'est-ce pas? La foi. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à la foi? La foi, d'où ça vient? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je suis persuadé que cette foi-là vient de tout ce bagage spirituel qu'il avait. Le bagage spirituel qu'il avait depuis sa jeunesse, qu'il a été exposé à tout ça, tout son environnement, ses parents, etc. Il a eu cette foi-là que Dieu va le délivrer. Nous avons lu, il y a deux sessions, la foi, les fois les hauts de la foi. Il voit déjà la solution. Il ne sait pas comment ça va arriver, là. Il voit la solution. Abraham, il va le saluer de loin. Il va le saluer de loin. Parce que pour lui, c'est réel. Daniel, à son âge, il a eu cette foi-là. Et il met en défi. Il met Dieu en défi. Seigneur, je vais manger des légumes. C'est un message pour nous. Une autre fois, on l'a déjà entendu, mais qu'il faut que là, qui ont des enfants, mais qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des petits-enfants, qui vont des environnements, d'avoir cette vie d'intégrité. Ce qu'on dit, ce qu'on lit, ce qu'on vit devrait refléter notre foi. Et ça va faire un travail qu'on ne sait même pas. On ne sait même pas. Dieu va utiliser notre témoignage. Oui.
Je pense qu'il faut utiliser aussi leur conviction. Parce que Dieu n'avait peut-être pas exaucé ses paroles. Tu sais, Étienne est un martyr. Mm-hmm. Il avait de la foi. Mm-hmm. Fait que quand tu prends une décision pour Dieu, ça ne vient pas avec une promotion, comme Daniel l'a eu. Des fois, ça vient avec des conséquences. Tu subis une perte d'emploi, tu subis des conséquences lourdes. Fait que quand tu prends une décision de conviction, il ne faut pas que tu t'attends à ce que Dieu te bénisse avec la richesse, les affaires. Tu prends par question de principe, conviction sur ce que la parole de Dieu est écrite. Parce que tu ne sais pas si ça va finir mieux pour toi. Des fois, ça va finir pire pour toi. Il faut juste vivre avec les conséquences.
Mais c'est peut-être l'espoir que Dieu reste fidèle à son peuple.
Oui. Oui.
Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion aussi. Là.
Oui. Dieu a été fidèle, comme mon frère l'a dit. Là. Quand on a cette espérance, là, je pense que tous ceux qui ont été au cœur des boulots ont pu vivre ce message-là de l'espérance d'Abraham, où Dieu a signé. Dieu a fait serment, dit le texte, qui va accomplir de sa promesse. Dieu! Il pouvait pas sermenter sur quelqu'un qui est plus grand que lui, mais il a sermenté. Oui! Donne cette espérance. C'est pas une espérance vague, là. Et Daniel, pour moi, a été convaincu de cette espérance-là. Il était convaincu. C'est ça, notre espérance. On sait pas quand il va revenir, mais il va revenir. Et quand il va revenir, il va revenir.
Mm-hmm. Des fois, on oublie. C'est pour ça que j'aime les derniers versets de Hébreux 11, des héros de la foi, de ceux qui ont été martyrisés, qui étaient dénudés, mis dans les cavernes, sciés, qui n'ont pas vu ce qui a été promis. Ils vont le voir.
Un complémentaire à ça, c'est que notre espérance, c'est que toutes choses concourent au bien. En attendant son retour, notre espérance éternelle, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. T'sais. Puis ça inclut la détresse, les troubles, les pertes, ça inclut tout ça. Il y a un rapport avec, justement, la foi. Je pense qu'on l'applique à nous autres aussi dans ce sens ici. On est tous appelés. Dieu a élu avant la fondation du monde, Daniel.
Amen.
Ce travail qu'il avait à faire. Ouais. C'est Dieu qui lui a donné la foi aussi.
Oui.
Et si on l'applique à nous, moi, je ne serai jamais un Daniel dans le sens que je vais être une personne importante, pas importante. Mais Dieu m'appelle à faire quelque chose.
Chacun.
Que je la fasse par la foi.
C'est ça.
Dans mon petit monde à moi.
Et trouver fidèle.
Que Dieu nous aide à être fidèles jusqu'à la fin.
Oui. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. En fait, quand vous lisez Hébreux 11, Daniel, le nom de Daniel n'apparaît pas dans les hauts de la foi, mais le lion de la sauvée de la gueule du lion est là. Il est là et puis il va citer les autres. Il n'y a pas le temps de citer les généons, etc., le dit le texte. Mais ça inclut sûrement Daniel. Mais c'est intéressant de voir qu'il va chercher la gueule du lion, la sortie. La gueule du lion, c'est peut-être ça, Daniel.
Aussi, la chose, c'est qu'ils ont su se retirer, se mettre à part avec Dieu. Intercéder, prier. Mm-hmm. C'est ça qui a fait leur force. Ils ont eu des promesses, mais appuyés par Dieu, par le Saint-Esprit.
Oui.
Pour ça, il faut vraiment prendre le temps avec Dieu pour connaître sa présence et son plan pour chacun d'entre nous.
Oui. Merci, mon frère, d'avoir à amené ce point-là. Je ne veux pas croire que le temps de Daniel, dans tout ça, là, ils ont ils ont oublié la, cet aspect de prière qui arrosait toute leur ville. Parce que dans les chapitres suivants, on va aller voir, là, ils sont là, ils prient là, hein, régulièrement la prière et l'étude de la parole, là, ils sont dedans. Le premier vers chapitre n'en parle pas, mais n'oublie pas que ces gars-là, c'est des hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu. Et puis, ils sont à l'école sûrement, mais ils, cette vie de prière, ils l'ont. La loi n'a pas été peut-être passée encore, qu'ils n'ont pas le droit de prier, etc. Là. Mais on va voir quand ça va être le temps, la loi va être passée. Ils vont désobéir pareil. Quel modèle pour nous aujourd'hui de connaître notre Dieu d'abord. Important, connaître notre Dieu. Un Dieu qui veut qu'on lui soit fidèle dans les petites choses. Un Dieu qui veut qu'on se débarrasse de l'iniquité, de prendre position, d'avoir la haine du péché, de faire tout ce qui n'est pas, d'avoir la haine de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait à son tour? Dieu honore la demande de Daniel et le responsable fait un excellent rapport de la foi. Wow! Il dit, hey, ces gars-là, là, sont en plus meilleure forme que tous les autres gars. On mangeait des légumes. Est-ce que vous mangez des légumes? Comme chrétien, on ne perd rien en refusant de se compromettre. N'oubliez pas ça. Non. Il ne faut pas de compromission par rapport à nos convictions, notre valeur chrétienne. Puis, on ne sera pas perdant. L'exemple de Daniel nous le prouve. J'ai réalisé aussi que personne n'était lésé dans cette affaire. Daniel n'est pas lésé. Ses amis non plus. Même le personnel, le responsable. Parce que pour lui, hey, on est gagnant. On n'a pas respecté ce que le roi nous dit, mais on est gagnant, on n'est pas perdant. Parce que les amis sont en bonne forme. Maintenant, on va terminer avec l'approbation de Dieu. Alors, quand on lit ces versets du 14 à le verset 17 à 21, on voit que le verset commence « Dieu accorda ». C'est l'action de Dieu. Par rapport à tout ce qu'on avait vu, la grandeur, ben, la forme physique, l'embonpoint de Daniel et de ses amis, c'est Dieu qui accorda, qui a répondu à leur prière. Et dans ce cas-ci, on va voir que Dieu va accorder plus qu'ils s'attendaient, encore plus. Qu'est-ce que Dieu va leur donner comme réponse? Et Dieu les a accordés, et ils ont accordé la première place à Dieu. Je pense qu'ils se sont mis à apprendre, premièrement, là. Parce que la formation de 3 ans, je pense pas qu'ils sont juste allés là parce qu'on m'oblige à faire la formation, etc. Je pense qu'ils sont mis là-dedans, ils ont fait confiance au Seigneur, ils sont dans la volonté de Dieu, ils ont appris, et ils ont été formés comme il faut. Dieu accorde une intelligence. Dieu leur accorde une intelligence et qui étonne le monde. Et même eux-mêmes, ils sont étonnés. Dieu donne à Daniel la facilité d'expliquer les songes. Je ne pense pas qu'il ait demandé ça, lui. Non, je ne pense pas qu'il l'aurait demandé au Seigneur, donne-moi la capacité d'expliquer les songes et les visions. Mais Dieu a un plan. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit, là, n'oublie pas. Et Dieu va lui donner les talents, les ressources qu'il a besoin pour accomplir son œuvre, accomplir sa volonté, son dessein. Après 3 ans, c'est le roi qui leur passe un examen oral. Il va les questionner. Le roi, pour moi, il est pas mal connaissant de ces affaires-là. Puis il va les questionner sur les objets, toutes sortes d'objets scientifiques, etc. Là. Et puis qu'est-ce qui est arrivé à ces gars-là? Ils passent ces textes-là haut les mains. Ils vont passer ces textes, ils les trouvent 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. Waouh! Quelle approbation de la part du roi! Mais de la part de Dieu, premièrement, qui approuve et qui donne à ces hommes-là, face à leur fermeté, cette compréhension, cette intelligence. Et cette intelligence, on va voir Daniel à l'œuvre bien dans les prochains chapitres, comment il va expliquer les choses, etc. Le plan que Dieu avait fait pour Nebuchadnezzar, ce qui va arriver, il va être capable d'expliquer ça à Nebuchadnezzar. Conclusion, Daniel et ses amis ont été fidèles au Seigneur. Ils étaient fermes dans leurs convictions. Ils ont honoré leur Dieu. Ils n'ont pas cédé à la tentation de l'orgueil qui pourrait accompagner cette position d'influence, en plus dans l'Empire. Ils n'ont pas cédé à tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons pour nous à apprendre là-dedans par rapport à cela. Il y a une forte tentation quand on a un poste élevé, là, disons. La tentation est là. Et que Dieu nous garde humbles. Ils ont honoré Dieu et Dieu les a honorés en retour, n'est-ce pas? On peut le dire ça, hein? Et on finit avec ce verset de 1 Samuel, chapitre 2, verset 30b, il dit, « J'honore celui qui m'honore. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. Mais ceux qui méprisent, ils seront méprisés aussi. Alright? Que le Seigneur nous donne de l'honorer dans toutes les activités, nos activités, partout où on se trouve cette semaine et pour le restant de notre vie. Quelqu'un voudrait terminer par un mot de prière, s'il vous plaît?